Radio Okapi. Okapi.
Dix-sept personnes otages des ADF ont été libérées hier jeudi de main de leurs ravisseurs par les FARDC dans les environs des villages de Loloa et Lumalisa, c'est dans les territoires de Mambasa, en Ituri. Un effort salué par la Convention pour le respect des droits humains qui plaide d'ailleurs pour que tous les bastions de rebelles soient démantelés. La malnutrition aiguë et chronique frappe fortement la province du Kwango. Ce sont les enfants de moins de 5 ans qui sont beaucoup plus affectés. La faible production agricole et le manque d'eau potable sont entre autres les causes de cette situation en province. Et puis une campagne de chirurgie ophtalmologique pour la prise en charge gratuite des patients souffrant de la cataracte vient d'être lancée à l'hôpital Monkolé ici à Kinshasa. Pour en parler, nous recevons dans cette édition du journal Dr Dan Bomboko, conseiller médical du ministre de la Santé publique, hygiène et prévention. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour. En Ituri, territoire de Mambasa, 17 personnes otages des ADF ont été libérées hier jeudi de main de leurs ravisseurs par les FARDC dans les environs des villages Loloa et Lumalisa. Selon des sources de sécurité, cela fait suite au combat engagé par l'armée contre ces terroristes en fuite. L'Organisation de défense des droits humains, Convention pour le respect des droits humains, CRDH, salue les efforts de forces loyalistes et plaide pour que les opérations soient intensifiées contre ces rebelles afin de démanteler tous leurs bastions. Marcel Kizabiamungu.
Parmi ces otages libérés figurent 3 mineurs et 5 femmes. Ces personnes étaient gardées en otage depuis 4 mois pour certaines et 1 mois pour d'autres. La prise en otage est intervenue lors des attaques de villages de Otumaber, Loya, Kandoi dans les territoires d'Irumu et de ceux de Lumalisa et Loloa dans les territoires de Mambasa. Ces personnes visiblement très affaiblies ont été ramenées par l'armée à Komanda Centre le jeudi. Elles expriment leur gratitude au FARDC pour les avoir libérées du calvaire enduré en brousse, notamment comme esclaves. L'une d'elles témoigne.
Nous avons été capturés à Loloa et ils nous ont amenés dans la brousse là où nous ne les connaissons pas. Nous avons fait 4 mois et 2 semaines avec eux. Notre travail était de cultiver leurs champs de maïs, haricots et les soja. En tout cas, nous remercions le gouvernement pour nous avoir libérés aux mains de ces rebelles.
Satisfaite, l'ONG Convention pour le respect des droits humains, CRDH Irumu, encourage le FARDC à continuer à pourchasser l'ennemi qui trouble ces derniers jours l'inquiétude de la population sur la RN4. Son coordonnateur, Christophe Mouyadérou.
Disons un grand merci à ce grand travail que notre armée a pu exécuter.
De son côté, l'armée réaffirme sa détermination à mettre fin aux aventures des ADF dans les territoires du Rumo et Mambasa. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Et puis en plus bref, au Nord Kivu, la situation demeure instable jusqu'à ce vendredi autour des positions des FARDC de Rwanguba et Rangira. C'est entre les groupements de Djomba, Bweza et Busanza, territoire de Rutshuru. Selon plusieurs sources dans la région, des tirs sont attendus depuis tôt ce matin. Elle précise que les rebelles du M23 poursuivraient un largage d'obus contre ces positions, les positions de l'armée depuis les collines de Bukarangé et Chema, un groupement de Bweza. Dans un communiqué publié hier jeudi, le commandant de Sokola 2 parlait déjà des villages Rutshuru et Ruseke qui se vidaient de leurs habitants sous pression des rebelles en prélude à ces nouvelles attaques que l'armée considère comme une violation de la trêve édictée par les chefs d'État de l'EAC. Toujours au Nord Kivu, un incendie s'est déclaré dans la nuit d'hier à ce vendredi aux environs de 22 heures au bureau du commissariat de la police nationale congolaise d'Oicha, chef-lieu du territoire de Beni. Tous les bâtiments matériels préfabriqués ainsi que le bien qui s'y trouvait ont été consumés. Le feu s'est propagé par la suite au cachot de la police et au bureau de l'inspection de l'auditorat militaire construit en planche sans faire des dégâts humains. 2 détenus sur 6 se sont sauvés et 4 autres maîtrisés par la police de garde. Des vivres ainsi que quelques armes à feu gardées dans les dépôts de la logistique n'ont pas été épargnées par ce feu. Selon le commandant de la police, le commissaire supérieur principal Jean-Pierre Wumbi qui livre formation, un court-circuit électrique serait à l'origine. Il annonce l'ouverture d'une enquête. Et puis, la situation sécuritaire délétère qui prévaut dans la province du Maïndombé depuis bientôt 3 semaines entre les membres de communautés Teke et Yaka à Kwamout a été au centre du débat d'hier jeudi dans l'émission Dialogue entre Congolais animée par Guy Maté sur Radio Kapi. Cependant, que faire pour mettre fin à ce conflit qui a déjà causé plusieurs morts et des dégâts matériels importants? La réponse avec vous, Blaise Ndongala.
Selon des sources concordantes, ces vives tensions ont été enregistrées dans plusieurs coins de la province, notamment dans la cité de Kwamout, ainsi que dans les villages d'Oumou, Ngamboni, Massiambe et Zémé. Pour sa part, Maître Jacques Mombaka, gouverneur intérimaire de la province du Maïndombé, d'ici dimanche, les deux gouverneurs du Maïndombé et du Kwango vont descendre à Kwamout pour pacifier cette région. Maître Jacques Mombaka.
D'ici dimanche, les deux gouverneurs seront sur terrain et ils vont réunir les deux communautés autour d'une table, les responsables et autour des leaders de coin.
Le professeur Nopes Kibiswa, spécialiste en analyse, résolution des conflits et prévention du génocide, estime quant à lui qu'il faudrait que les autorités agissent en amont en mettant en place des structures de prévention et de résolution des conflits. Professeur Nopes Kibiswa.
Il faut qu'il y ait des mécanismes du traitement du conflit, de ces divergences-là, et trouver des solutions.
L'ONG Action pour la défense des droits humains, une structure de la société civile basée dans la commune rurale de Nyoki, s'est dit préoccupée de cette situation qu'elle qualifie de dramatique. Parce que, dit-elle, le bilan continue de s'alourdir chaque jour. Elle pense que si les autorités n'arrivent pas à trouver des solutions, la province de Maïndombé risque de connaître des difficultés énormes.
Alors sur le terrain, ce conflit interethnique entre les peuples Teke et Yaka dans les territoires de Kwamout au Maïndombé, la tension ne baisse toujours pas. Ce matin, le village Massiakwa vient d'être attaqué et le bilan provisoire fait état de 2 morts, dont le chef du village et sa femme, ainsi que de plusieurs maisons incendiées. La dite attaque est attribuée au camp Yaka, selon les députés provinciaux David Bisaka et le national Guy Moussomo. L'intervention des autorités du pays s'avère obligatoire pour imposer la paix dans cette partie. Plus de précisions avec Irène Beaumont.
Les peuples Teke et Yaka ne décollèrent toujours pas au territoire de Kwamout. Ce vendredi, le village Massiakwa est en feu depuis 6h du matin. Des sources concordantes parlent de plus de 200 assaillants apparentés aux Yaka qui ont attaqué ce village. Déjà, plus de 80 maisons sont brûlées et un mouvement de déplacement massif des populations est observé dans tous les sens. Certains habitants traversent en pirogue pour trouver refuge dans les territoires voisins de Bolobo, d'autres vont au Congo-Brazza et d'autres encore se dirigent vers Kinshasa. Selon le député national Guy Moussomo, le bilan humain provisoire fait état de 2 morts.
Les assaillants sont entrés à Massiakwa. Ils ont tué et égorgé le chef coutumier et sa femme. Le bilan pourrait être très lourd. Nous attendons peut-être la fin de la journée.
Ne sachant à quel sein se vouer, le député provincial David Bisaka, élu de Kwamout, s'exprime en ces mots.
Aujourd'hui, ça fait déjà presque 2 mois que nous crions à travers vos ondes. Mais pourquoi on va supplier pour que notre population soit sécurisée? Ça me met très malade là et ça me prend la tête cette histoire.
Martin Souta, vice-président de la société civile de Kwamout, lance un cri de détresse aux autorités en vue de la restauration de la paix dans ce coin. Irène Boma, Bandundouville, Radio Okapi.
On reste dans la région, cette fois-ci dans la province du Kwango. Celle-ci elle est fortement frappée par la malnutrition aiguë et chronique. Plusieurs zones de santé sont en alerte nutritionnelle selon le bulletin numéro 48 de juin 2022 édité par le Programme national de nutrition Pronanut niveau national, rendu disponible par le coordonnateur provincial du Pronanut de Kwango, Baudouin Onésime Bikakala. Ce sont les enfants de moins de 5 ans qui sont beaucoup plus affectés. La faible production agricole, l'ignorance de la population et le manque d'eau potable sont parmi les causes de cette situation en province. Le vice-président de la société civile de Kwango, qui le dit, plaide auprès du gouvernement provincial et central pour une intervention. Une fois de plus, on revient avec Irène Mboma.
Au regard des différentes enquêtes menées dans la province du Kwango sur la sécurité alimentaire, il est montré que cette province est touchée par la malnutrition aiguë et chronique, surtout chez les enfants de moins de 5 ans. En se référant au rapport du 48e bulletin du juin 2022 sur les alertes nutritionnelles, 11 sur les 14 zones de santé que compte le Kwango sont en alerte nutritionnelle. Parmi elles, nous pouvons citer la zone de santé de Popokabaka, Kasongolunda, Kitenda, Tembo, Panzi, Kaemba, Fetchi, Kajiji, Kisanji et Wambaluadi. Ces informations nous sont livrées par le coordonnateur provincial du Ponanit Kwango, Bodwe Bikakala. Symphorie Kwango est le vice-président de la société civile du Kwango. Tout en énumérant quelques causes de cette situation en province, il plaide pour une intervention.
Les causes de l'insécurité alimentaire dans la DPS Kwango sont la mauvaise pratique alimentaire, la qualité de l'eau consommée par la population qui n'est pas potable, l'ignorance. Nous demandons à notre gouvernement de la République de prendre des mesures afin d'atténuer la malnutrition dans les zones de santé concernées.
Il en appelle aussi à l'intervention du PAM, Programme Alimentaire Mondial. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Et puis à l'occasion de la Journée mondiale de l'aide humanitaire, célébrée le 19 août de chaque année, le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Modeste Mutinga Mutuishai, et le coordonnateur humanitaire en RDC, Bruno Lemarquis, ont salué le dévouement des acteurs humanitaires qui travaillent souvent dans des conditions difficiles pour sauver des vies et préserver la dignité des populations dans le pays. Les deux personnalités l'ont fait savoir dans un communiqué publié ce vendredi. À 4 mois de la fin de l'année, les besoins humanitaires croissants sont confrontés à une situation financière critique. Le plan de réponse humanitaire qui s'élève à 1,88 milliard de dollars pour porter assistance à 8,8 millions de personnes en 2022 a reçu 33% des financements nécessaires. D'autres détails avec vous, Alain Hurong.
Les premiers mois de l'année 2022 ont enregistré des multiples crises qui ont provoqué des besoins humanitaires, notamment dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, où plus de 3 millions de personnes sont des déplacés internes. À chaque crise, les partenaires humanitaires se mobilisent pour apporter du secours, en premier lieu les organisations locales et les volontaires locaux, les autorités locales, provinciales et nationales, les ONG nationales et internationales et les agences des Nations Unies. Parfois au péril de leur vie, les acteurs humanitaires abattent un travail incommensurable pour apporter de l'aide d'urgence à des millions d'hommes, de femmes et d'enfants frappés de manière répétée par les conséquences des conflits et de la violence armée, des épidémies et des catastrophes naturelles au pays. C'est aussi l'occasion de saluer les familles congolaises qui, de façon spontanée, font preuve d'humanité en offrant leur toit aux personnes en détresse, constituant la première ligne de réponse humanitaire dans le pays, a déclaré le ministre Modeste Mutinga.
Autre nouvelle, la délégation syndicale nationale de la SNCC fustige la méthode de travail des agents de l'inspection générale des finances en mission à la SNCC. Dans une correspondance adressée à l'inspecteur chef de service à l'IGF, de rappeler à l'ordre ces agents car ils ont bloqué tous les documents de sortie des fonds, ce qui crée un climat malsain. D'autres détails avec Jean Gandou.
Dans cette correspondance, la délégation syndicale nationale dit avoir accueilli avec enthousiasme cette mission dépêchée par l'IGF dans l'espoir de la relance de la production de cette compagnie ferroviaire qui fait face à plusieurs difficultés. C'est entre autres l'impaiement de plus ou moins 100 mois d'arriéré de salaire, la non-sortie des pensionnés depuis 2014, la modicité de salaire car étant payé au taux de 750 francs congolais le dollar. Les signataires de cette correspondance indiquent qu'une telle entreprise doit être gérée méticuleusement que d'être soumis aux caprices et à la dictature des agents de l'inspection générale des finances en mission à Lubumbashi. La délégation syndicale à ses agents notamment, le fait de ne se présenter qu'une seule fois la semaine pour mener leur mission. Conséquence, plusieurs documents des paiements en faveur de la production et de l'exploitation ainsi que le social des travailleurs sont bloqués. C'est entre autres le document relatif à l'achat des produits d'entretien et de vivres pour les malades à l'hôpital de la SNCC, les primes ainsi que les collations, sans oublier les fournitures des bureaux et autres pièces de rechange pour réparation des locomotives et autres machines. Pour cela, la délégation syndicale exprime toute sa désapprobation car cela crée un climat malsain au sein de l'entreprise. Voilà pourquoi elle demande à l'inspecteur général de finances pour qu'il donne des recommandations claires aux agents en mission afin que le travail se déroule normalement dans le délai et le respect des textes légaux en vigueur, à savoir le code du travail, la convention collective, ce qui va préserver la paix sociale au sein de l'entreprise. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Et puis au sud Kivu, deuxième jour ce vendredi de la perturbation de la circulation dans la ville de Bukavu. La mairie de Bukavu a interdit depuis hier jeudi la circulation des motos taxis au centre-ville sur le boulevard Lumumba. L'autorité accuse les conducteurs de motos taxi d'être à la base des embouteillages et autres cas d'accidents de route. Mécontents de cette décision, certains motards de Bukavu ont barricadé quelques routes jusque ce vendredi matin, empêchant ainsi d'autres personnes de se déplacer. Même le trafic à moto sur les routes secondaires n'est pas correctement assuré. Cet état des choses préjudicie certains habitants, étudiants et autres fonctionnaires qui ont du mal à rejoindre leur destination à temps. Et puis, dans la province du Maniema, 15 agriculteurs viennent de bénéficier d'une session de formation de 8 jours sous l'accompagnement de l'ASBEL Ardictac. Entendez tous à l'agriculture au Congo-Kinshasa. Ce projet pilote a débuté au Maniema, plus précisément dans les territoires de Kailo. Les responsables de ce projet indiquent qu'il a amené l'innovation dans la diversification des cultures et de 3 récoltes par an à travers les techniques culturelles adéquates ou recommandées, contrairement aux pratiques culturelles traditionnelles qui ne donnait qu'une seule récolte pour chaque année. On écoute Patrick Djanga, président du conseil d'administration de l'ASBEL Ardictac. Il explique au micro de Florence Kizalunga.
Au sein de l'association, nous avons élaboré un projet intitulé « Tous à l'agriculture au Congo-Kinshasa ». C'est un projet intégrateur, un projet qui veut mettre ensemble tous les acteurs, tous les intervenants du secteur agricole afin de faciliter les Congolaises et les Congolais. Pour le cas d'espèce, afin de faciliter la population de Kindu d'abord et puis du Maniema après, la tâche pour qu'ils aillent effectivement participer aux activités agricoles. En bref, pour qu'ils aient des champs et des fermes. C'est un projet pilote que nous allons commencer ici à Kindu, précisément à environ 40 kilomètres sur la route Lokando, et le processus exige que l'on commence d'abord par la formation, puisque ce que nous allons faire, c'est montrer de nouvelles techniques de production qui permettent à ce qu'on améliore la qualité des produits, mais aussi qui va permettre aux paysans et à tout autre intervenant, tout autre exploitant, d'avoir aussi des ressources à partir de ces activités champêtres.
Actualité internationale.
Au Cameroun, le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, a interdit le 10 août dernier la vente des produits de blanchiment de la peau commercialisés par 5 entreprises, dont celle de la députée de l'opposition, Nouran Fosting. Depuis, le membre du gouvernement indique dans une interview à la chaîne télévision Naja TV avoir reçu des menaces. Et puis, l'état d'urgence est élevé depuis jeudi matin au Sri Lanka, après des mois de manifestations pour le départ du président Gotabaya Rajapaksa. Dans le pays, la situation économique reste tendue et les habitants espèrent une amélioration dans le coût de la vie.
L'invité.
Une campagne de chirurgie ophtalmologique pour la prise en charge gratuite des patients souffrant de la cataracte vient d'être lancée. Toutes les personnes affectées par cette maladie peuvent déjà se faire enregistrer pour bénéficier de ce dimanche 21 août des soins gratuits à l'hôpital Moncolé de Kinshasa. Docteur Dan Bomboko, conseiller médical du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, est notre invité dans cette édition du journal. Il donne des précisions dans cet entretien avec Guy Maté. Suivez.
Bonjour docteur Dan Bomboko.
Bonjour.
Qu'est-ce qui motive cette initiative? Avez-vous constaté que la cataracte est devenue un problème de santé publique pour que vous puissiez initier cette campagne?
Oui, tout à fait. La cataracte a toujours été un problème de santé publique majeur dans ces pays, puisque nous avons fait face à plusieurs difficultés au niveau des systèmes de santé et nous avons dû faire face à plusieurs épidémies. Il n'en demeure pas moins vrai que des maladies comme la cataracte sont toujours là et nous devons nous y pencher pour aussi apporter des solutions et un soulagement aux personnes qui manifestent ces maladies.
Et c'est toutes les provinces de la RDC qui sont concernées par cette opération ou c'est seulement la ville de Kinshasa?
Non, bon, il s'agit d'un projet pilote. Donc, nous allons d'abord commencer par la ville province de Kinshasa. Ensuite, nous allons étendre cette activité à d'autres provinces.
Les personnes affectées par la cataracte, comment devront-elles procéder pour bénéficier effectivement de cette prise en charge gratuite?
Alors, nous invitons toutes les personnes qui souffrent de la cataracte de pouvoir se rendre dès à présent au centre hospitalier collé pour se faire enregistrer. C'est le travail qui est en train d'être fait en ce moment. Ça va se prolonger jusqu'au 21 août. Toutes les personnes qui ont la cataracte et qui voudraient bénéficier de cette prise en charge devront se faire enregistrer au préalable parce que tous les cas ne seront pas opérés. Ça dépendra un peu du niveau d'évolution de la maladie et puis de la comorbidité de chaque patient. Donc il y a une équipe médicale sur place à Moncolé qui attend les patients qui viennent pour se faire évaluer et éventuellement se faire enregistrer pour les opérations proprement dites.
Ils peuvent y aller dès aujourd'hui?
Oui, dès aujourd'hui jusqu'au 21 août, les recrutements cessera et continue de se faire.
Dans ces pays, nous avons une panoplie de maladies qui constituent un véritable problème de santé publique, comme par exemple les glaucomes, appelés communément l'attention de l'œil. et cette maladie évolue jusqu'à la cécité. Et aujourd'hui, on enregistre un nombre important de personnes qui ont attrapé la cécité à cause de cette maladie. Or, on sait que le coût du traitement du glaucome n'est pas à la portée de toutes les bourses. Et vous n'envisagez pas ce genre de campagne pour ce type de maladie, docteur?
Bon, il faut dire que à l'heure actuelle, nous avons aussi des gens, des experts avec travaillant, notamment des experts espagnols qui vont nous, des médecins espagnols qui vont nous accompagner dans cette activité. Donc, nous avons profité de l'opportunité qui nous était offerte pour cibler les cataractes. Mais évidemment, les ministères de la Santé travaillent et continuent de travailler pour apporter des solutions à tous les problèmes de santé publique qui existent dans ces pays.
Un dernier message, rappelant aux patients qui souffrent de la cataracte la procédure à suivre pour bénéficier des soins gratuits à partir de ce dimanche 21 août.
Alors, je rappelle, je demande à toutes les personnes qui souffrent de la cataracte d'aller au centre hospitalier Moncolé qui se trouve à Mongafula pour enregistrer. Là-bas, il y a une équipe de médecins qui est sur place à Moncolé 2. Qui est un département d'ophtalmologie du centre hospitalier Moncolé, où ils vont être pris en charge, ils seront évalués, et si l'évaluation est concluante, ils vont se faire enregistrer en vue de l'opération. Et on rappelle, les opérations sont totalement gratuites, c'est dans le cadre de la coopération entre le ministère de la Santé et la fondation Hélène Barraquet, ainsi que la fondation Bahati, qui nous viennent en aide et aussi grâce à l'implication du gouvernement.
Docteur Dan Bomboko, merci.
Et c'est la fin de cette édition du journal, mise en onde par Jean-Claude Siala, coordonnée et supervisée par Alain Irung-Mouchinge. Merci de nous avoir suivis.